Canne blanche, numéro 1. Bulletin trimestriel, janvier-février-mars 2022. Précieuse autonomie. Quand on interroge une personne aveugle ou malvoyante sur ce qu'elle juge le plus compliqué, la réponse est souvent la perte d'autonomie. Se promener, faire les courses, cuisiner, assister à un concert, faire du sport, etc. Ces gestes du quotidien, pourtant banals pour bon nombre d'entre nous, se transforme en véritable parcours du combattant pour les personnes déficientes visuelles. Heureusement, il est possible de reconquérir son autonomie moyennant un accompagnement adapté, des aides techniques, des apprentissages, mais aussi beaucoup de volonté et de persévérance. C'est pourquoi la semaine de la Ligue Braille 2022 est placée sous le signe de The Independence Day. Notre campagne annuelle de sensibilisation au handicap visuel souligne l'importance de gagner en autonomie et son impact sur le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. Elle explique comment la Ligue Braille les entraîne sur le chemin d'une vie plus indépendante. Dans le dossier de ce numéro, nous abordons, témoignages à l'appui, quelques moments clés de la vie. Ils illustrent concrètement l'importance et la nécessité de maintenir l'autonomie de la personne en situation de handicap visuel dans toutes les sphères de la vie. Bonne lecture. Sommaire. Dossier. Semaine de la Ligue Braille, page 4. The Independence Day. Autonomie, indépendance et liberté. L'autonomie chez l'enfant. Autonomie chez soi. Dépasser la fracture numérique. Portrait, page 18. La passion du jeu. Technologie, page 20. This is the voice. Vaudrois, page 22. En direct du service social. Vie quotidienne, page 24. Journée des familles. Nouvelles du Braille Shop. Emploi, page 28. Mesures fédérales pour l'emploi. Loisirs, page 31. Des loisirs en présentiel et en virtuel. Quoi de neuf à la bibliothèque? Merci, page 36. La VisuBox pour les professionnels. Dossier, semaine de la Ligue Braille. The Independence Day. Chacun vit des moments déterminants, inoubliables. Pensez à votre premier jour d'école, à votre première journée de travail, le jour où vous avez quitté le cocon familial. Comme tout le monde, les personnes aveugles et malvoyantes font l'expérience des premières fois. Pour elles, ces premières signifient souvent un grand pas vers l'indépendance. Accompagner les personnes aveugles et malvoyantes vers l'autonomie et l'indépendance est l'une des missions de la Ligue Braille. Celle-ci propose gratuitement une offre de services qui vise l'autonomie des personnes avec un handicap visuel, de naissance ou acquis en cours de vie. Placée sur le signe de « The Independence Day », la semaine de la Ligue Braille 2022 met en lumière l'importance de gagner en autonomie et le chemin que les personnes aveugles et malvoyantes doivent parcourir. Du 21 mars au 3 avril, la semaine de la Ligue Braille se déclinera en télévision, IN, Canva, La Une et Typique, en radio, Radio 2, Bell RTL et Vivacité, dans la presse ainsi que sur le web et les réseaux sociaux. Deux spots TV mettent en scène deux de nos membres à des moments charnières de leur vie. Martin, 8 ans, photo de couverture, à l'école, qui a participé à notre semaine de répit, et André, 75 ans, photo ci-dessus, qui, grâce aux nouvelles technologies, conserve une vie sociale active. Le matériel de campagne ainsi que les témoignages vidéo de Martin et André sont à voir et à entendre sur le site web de campagne semaineliguebraille.be et sur les réseaux sociaux. L'objectif de la semaine de la Ligue Braille est de souligner qu'il est possible d'être autonome et indépendant avec un handicap visuel, quel que soit l'âge, grâce à un accompagnement adapté et des conseils personnalisés. Le grand public prendra ainsi conscience que ce qui semble banal pour une personne voyante exige apprentissage, persévérance et détermination pour les personnes aveugles et malvoyantes. Sensibiliser le grand public à la malvoyance pour soutenir l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes, telle est aussi une des missions de la Ligue Braille. En plus de retracer quelques moments clés de conquête de l'indépendance chez l'enfant, le jeune adulte et le senior, et d'épingler les bonnes pratiques pour reconquérir l'autonomie, le dossier tente aussi de clarifier les concepts d'autonomie, d'indépendance et de liberté, souvent utilisés indistinctement. À l'occasion de sa campagne annuelle, la Ligue Braille édite un tout nouveau guide intitulé « Une autre façon de voir la vie, cap sur l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes ». Celui-ci explique le handicap visuel, regorge de 1001 conseils pour mieux vivre avec le handicap visuel et présente le petit matériel et les aides techniques existants qui améliorent le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. Vous pouvez le télécharger en scannant le QR code ou demander à le recevoir en version digitale ou papier. Il vous suffit pour cela d'envoyer un mail à info@braille.be ou de téléphoner au 02 533 33 33. Faire en sorte. Faire en sorte que Martin et André puissent mener leur vie de manière autonome et indépendante nécessite de nombreuses heures intensives de suivi. Il suffit de penser aux leçons de braille, de canne, d'iPhone, aux visites à domicile pour s'assurer que le foyer soit adapté de manière optimale, etc. La Ligue Braille offre ses conseils gratuitement à tous ses membres. Pour continuer à le faire, la Ligue Braille a besoin de vous. Soutenez la Ligue Braille. Chaque don, aussi minime soit-il, aide les personnes aveugles et malvoyantes, comme Martin et André, à conquérir leur indépendance à tous les âges et dans toutes les sphères de la vie, privée ou professionnelle. Faites un don sur le compte BE 11 4x0 4x0 48 48 avec la communication SLB 2022. Pour chaque don à partir de 40 euros, vous recevrez une attestation fiscale. De tout cœur, merci. Autonomie, indépendance et liberté. Dans son préambule, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît notamment l'importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelle, y compris la liberté de faire leur propre choix. Point N. Ces notions sont reprises dans le premier des principes généraux sur lesquels elles se fondent, le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes. Article 3.A. Le texte ne donne pas de définition de ces termes, mais ils ont été commentés par un comité de l'ONU sur lequel nous reviendrons. Que recouvrent au juste ces termes d'autonomie, d'indépendance et de liberté, souvent utilisés indistinctement et dont le contenu est susceptible d'évoluer, tout comme la société et le regard qu'elle porte sur le handicap. Dans leur acception commune, autonomie est synonyme d'indépendance et de liberté. Toutefois, quand on les utilise dans un champ de connaissances particulier, ils prennent des nuances distinctes. Leur interprétation peut même différer sensiblement selon le champ concerné. Par exemple, le champ éducatif au sens large, celui du développement personnel ou, en ce qui nous concerne, celui du handicap. Même dans le seul champ du handicap, les définitions peuvent varier d'un auteur à l'autre, signe d'un bouillonnement des idées dans une réflexion sémantique qui est sans doute loin d'être close. Tentons cependant d'y voir un peu plus clair dans le contenu de ces notions telles qu'il ressort de l'usage actuel des professionnels et autorités en charge du handicap. Autonomie et indépendance. Dans le champ du handicap, comme dans celui des maladies chroniques ou de la gériatrie notamment, la notion d'autonomie est souvent définie par les professionnels par opposition à la notion de dépendance. La sociologue française Myriam Winans résume ainsi cette opposition. La personne autonome est celle qui décide et agit seule, sans recours à une aide. La personne dépendante est celle qui, suite à une maladie ou un accident, n'est plus capable de réaliser les diverses activités de la vie quotidienne, activités physiques, sociales, etc., sans recourir à une aide. Même si ces définitions ne sont pas figées, il y a un relatif consensus qui se dégage au sein des milieux actifs dans le domaine du handicap. Il se fonde notamment sur l'observation générale donnée par le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées à propos de l'article 19 de la Convention de l'ONU qui reconnaît le droit à l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société. 2. On peut y lire. Le fait de mener une vie autonome ne signifie pas que la personne handicapée vivra en totale autarcie, à distance des autres citoyens. Cette notion correspond plutôt à un modèle social du handicap qui reconnaît que les gens ne sont pas restreints dans leurs choix par leurs particularités ou conditions qui leur est propre, mais par l'environnement social et physique dans lequel ils vivent. Dans un environnement favorable, les choses ne sont pas imposées à la personne, mais celle-ci est aidée, tout comme n'importe quelle autre personne, à prendre des décisions en toute indépendance, le cas échéant avec un accompagnement. Nous vivons tous dans un environnement où nous dépendons d'interrelations, et comme pour tout le monde, l'autonomie de la personne handicapée se construit en s'appuyant sur un réseau de relations multiples, familiales, sociales, institutionnelles, etc. Simplement, les personnes handicapées ont besoin à un moment ou à un autre d'un soutien spécifique pour assurer leur autonomie. Ce soutien peut prendre la forme, par exemple, de services d'aide personnalisés à domicile ou de services dans des domaines particuliers comme la mobilité, les études, le travail, les loisirs, la parentalité, etc. L'essentiel, dans l'esprit de la Convention de l'ONU, est de permettre à toute personne en situation de handicap d'exercer sa liberté de choix. Choix du lieu de vie, choix des personnes avec qui elle souhaite vivre, choix de son mode de vie, de ses activités, etc. Atteindre une telle autonomie nécessite notamment, dans le cas du handicap visuel, un accompagnement et des apprentissages spécifiques pour acquérir une certaine indépendance. Être indépendant dans ce contexte ne signifie pas être capable de se passer complètement des autres. Répétons-le, tout être humain vit dans un lien complexe d'interdépendance relative vis-à-vis des autres. L'enjeu de l'indépendance est plutôt de développer des aptitudes à réaliser seul les actes concrets de la vie quotidienne. Se déplacer, faire sa toilette, s'occuper de ses enfants ou petits-enfants, s'habiller, lire, travailler, se détendre, etc. Comme le souligne le Comité des Nations Unies, la notion d'autonomie reste centrale dans la revendication d'égalité des personnes handicapées. Le mouvement pour la vie autonome exige aujourd'hui que la personne jouisse d'une autonomie individuelle et puisse avoir la maîtrise de sa propre vie, et que l'État offre des services efficaces pour que cette vie s'inscrive dans la société. Il n'existe de réelle autonomie que si, quel que soit le mode de vie choisi, c'est-à-dire au sein de la famille élargie, hors de la famille ou dans tout autre cadre, la personne conserve son indépendance et la maîtrise de sa vie et de ses décisions tout en bénéficiant des aides individualisées requises à cette fin. 3. En conclusion, nous pouvons donc résumer ces notions comme suit. Autonomie. La personne autonome est celle qui est capable de prendre par elle-même toutes les décisions qui la concernent. De là découle la liberté de faire ses propres choix. Indépendance. Le fait que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable montre que la sémantique qui les entoure reste un débat ouvert, dépendant du contexte et susceptible d'évoluer à l'avenir. Source 1. Winance, 2007. Winance Myriam. Dépendance versus autonomie, de la signification et de l'imprégnation de ces notions dans les pratiques médico-sociales. Dans Sciences sociales et santé, volume 25, 4. Décembre 2007, pages 83 à 91. 2 et 3, Observation générale 2017, du Comité des droits des personnes handicapées. Observation générale numéro 5, 2017, sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société. En ligne sur http://docstore.ohchr.org. 2. Voir aussi les éclaircissements apportés par UNIA sur le texte. Directive pour l'article 19 de la Convention des Nations Unies. Autonomie de vie et inclusion dans la société. Bruxelles, UNIA, 2020, page 18. Photo page 7. Un soutien est parfois nécessaire pour assurer l'autonomie d'une personne avec un handicap visuel. Photo page 8. La Ligue Braille aide à se déplacer de manière autonome grâce aux cours de locomotion. L'autonomie chez l'enfant. Dès leur naissance, les enfants apprennent chaque jour, pas à pas, à devenir des adultes indépendants et sûrs d'eux. Cela vaut également pour les enfants aveugles et malvoyants. La Ligue Braille les accompagne dès l'âge de 3 ans en proposant des activités en mode ludique. Au plus jeune, au mieux. Nathalie Trohn-Bix, référente enfant à la Ligue Braille, nous en dit plus sur la manière dont les enfants gagnent en autonomie. L'accompagnement de l'enfant suit généralement une demande particulière des parents ou d'un service d'aide externe. Naturellement, le point de vue et les émotions de l'enfant sont ici centraux. Nous commençons toujours par établir un lien de confiance et installer un environnement bienveillant, car c'est la meilleure façon pour apprendre. La première étape des démarches consiste à dresser un portrait complet. L'enfant est-il aveugle ou malvoyant? La pathologie visuelle est-elle congénitale? Va-t-elle encore évoluer? Y a-t-il des pathologies associées, des troubles autres que visuels? Nous nous intéressons aussi à l'environnement familial et à la situation scolaire. Ensuite, nous évaluons le degré d'autonomie et nous informons sur les aides auxquelles l'enfant a recours. Bon nombre de questions qui sont donc cruciales pour l'élaboration d'un plan d'action sur mesure. Le développement de l'autonomie est un processus qui demande beaucoup d'entraînement et de répétition. Cependant, plus l'enfant grandit, plus il est capable de faire davantage de choses seul. Pour le jeune, avec un handicap visuel, il s'agit souvent de trouver un bon équilibre entre se faire aider et le faire soi-même. Les parents doivent aussi jouer un rôle crucial dans l'apprentissage de l'autonomie, en le laissant se débrouiller par lui-même. Ils ont souvent tendance à faire à sa place, même pour les gestes de base. Or, l'enfant doit apprendre à beurrer ses tartines, à mettre du dentifrice sur la brosse à dents, à faire ses lacets, à s'habiller, etc. Chaque été, la Ligue Braille organise un stage d'autonomie pour des enfants âgés de 6 à 12 ans. Pendant une semaine, les participants exercent les gestes du quotidien dans un cadre ludique et récréatif. En fonction des besoins de chacun, ils répètent inlassablement les gestes de la vie quotidienne. Se verser un verre, fermer sa veste, frustration et fierté dominent. Il faut s'y reprendre des dizaines de fois avant de réussir. Tout le monde sait que nouer ses lacets, par exemple, est quelque chose d'abstrait pour un enfant, et qu'y parvenir n'est pas toujours aisé. Si l'enfant est malvoyant, c'est d'autant plus compliqué. Mais que n'est pas sa satisfaction lorsqu'il réussit à maîtriser le geste sans aide? Outre la base telle que manger et boire, s'habiller et se déshabiller, les fermetures éclairs, l'hygiène, etc., les enfants travaillent également le braille, la dactylographie, la mobilité, se rendre au magasin, le développement émotionnel et social et l'utilisation de petites et grandes aides techniques. Bien sûr, acquérir son autonomie ne passe pas que par les choses sérieuses. Jouer avec ses frères, ses sœurs et ses camarades de classe est tout aussi capital pour le développement de l'enfant. La Ligue Braille propose une ludothèque de plus de 600 jeux de société adaptés. Ceux-ci incluent du braille, des gros caractères, des marquages ou un plateau de jeux en relief pour les rendre accessibles aux partenaires de jeux aveugles et malvoyants. Le Braille Shop, quant à lui, propose un large éventail d'aides techniques et ludiques. Comme pour les adultes, le parcours vers l'autonomie de l'enfant est une trajectoire individuelle, en corrélation avec ses besoins et ses capacités. Si chacun évolue à sa manière, tous les enfants qui fréquentent la Ligue Braille partagent un point commun, le courage et la ténacité à avancer pour être aussi indépendants que possible. Photo : les visages heureux des enfants en stage à la mer en 2021. Autre photo : les enfants apprennent à nouer leurs lacets avec une aide technique. Autonome chez soi. Quelle belle victoire que de pouvoir enfin habiter seul. Et c'est d'autant plus délicat d'atteindre pleinement ce but lorsque l'on est une personne déficiente visuelle. En effet, il s'agit de retrouver un bon nombre de repères et de changer quelques habitudes. Lorsqu'une personne perd la vue et commence à avoir des difficultés à mener ses activités quotidiennes, la recherche de solutions devient indispensable. Dans ce qui suit, nous examinerons les conseils concrets et le soutien offert par les conseillers de la Ligue Braille pour que les personnes déficientes visuelles puissent revivre de la manière la plus autonome possible. Au Braille Shop, vous trouverez quantité de petits matériels pour faciliter la vie quotidienne. Le personnel de la Ligue Braille vous donnera des conseils adaptés à vos besoins personnels et vous rendra visite à domicile pour vous permettre d'adapter en douceur vos habitudes. Souvent, ce sont les astuces les plus simples qui fonctionnent le mieux. Adaptation utile à domicile. Pour les personnes malvoyantes, l'éclairage et les contrastes revêtent une importance capitale. L'intensité lumineuse idéale dépend bien entendu d'une personne à l'autre. Avec un éclairage adéquat, la quantité d'aide supplémentaire peut déjà être drastiquement réduite. De plus, régler l'éclairage d'une maison est relativement simple dans de nombreux cas. Jouer avec les contrastes est aussi quelque chose d'important. Nous verrons évidemment mieux un café noir dans une tasse blanche, une assiette rouge sur une table blanche ou encore un fauteuil sombre le long d'un mur clair. Les couleurs unies sont bien plus faciles à identifier que les couleurs mélangées. Pour se déplacer en toute sécurité chez soi et s'y retrouver facilement, il est important d'aménager son intérieur avec soin et de donner à chaque objet une place fixe. Les clés, le manteau, les verres, la nourriture, les produits d'entretien, etc. Un agencement bien pensé peut également prévenir bien des bosses et blessures. Évitez de laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Glissez toutes les chaises sous la table. Ne laissez pas traîner vos affaires, chaussures, sacs dans le couloir et fermez bien tous les tiroirs et placards. Du petit matériel et quelques adaptations se révèlent aussi bien utiles. Des détecteurs de couleurs et différents paniers à linge pour trier vos vêtements. Des porte-chaussettes pour les maintenir en paire pendant le lavage. Des marquages en relief autocollant. Des contrastes de couleurs. Autant d'astuces futées qui simplifient les tâches ménagères. Marquages et points de repère. Afin de manipuler facilement des objets fréquemment utilisés au quotidien, tels que de l'électroménager, des marquages en relief et en couleur vous aideront à identifier les différentes positions sur vos appareils. Pensons par exemple au lavage coton à 40 degrés, du lave-linge, à la fonction grill du four, au bouton marche-arrêt de la cafetière ou à la fonction 90 watts du four à micro-ondes. Prendre soin des petits-enfants. Ceux et celles qui souhaitent avoir des enfants peuvent compter sur de nombreuses aides pour s'y préparer. La Ligue Braille offre des conseils appropriés à la fois avant et après la naissance, afin que tous les bons gestes puissent être maîtrisés pour prendre soin d'un petit enfant, en toute sécurité. Par exemple, nos thérapeutes utilisent des mannequins pour montrer comment effectuer les activités quotidiennes, donner un bain, tenir le bébé, changer les couches, et ce, avant l'accouchement. Mobilité. Lorsqu'une personne aveugle ou malvoyante déménage, cela signifie également qu'elle aura à nouveau besoin de cours de mobilité dans son quartier. Le chemin du supermarché, de la boulangerie, du pharmacien, du médecin, du travail doit être réappris. Un thérapeute de la Ligue Braille recherchera avec vous l'itinéraire le plus sûr et le plus efficace à pied ou en transport en commun. Ces itinéraires sont ensuite mis en pratique jusqu'à être maîtrisés. Photo, une thérapeute de la Ligue Braille donne un cours de locomotion. Beau Peters, 25 ans, membre de la Ligue Braille, raconte son histoire. Il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter la maison où j'habite actuellement. Je me sentais prête et je suis vraiment heureuse d'avoir franchi cette étape. À présent, j'habite en ville et je peux facilement me déplacer en transport en commun. Depuis que j'ai mon chien guide, je me sens encore plus confiante pour sortir faire une balade. Des thérapeutes sont venus me voir pour, par exemple, apposer des marquages en relief sur le micro-ondes et la machine à laver. J'ai également suivi des cours de cuisine à la Ligue Braille, donc maintenant je peux gérer mon ménage de façon autonome. Mes parents m'ont toujours encouragée à être aussi indépendante que possible, et je leur en suis très reconnaissante. Pour moi, l'indépendance signifie que je peux me débrouiller sans le filet de sécurité que constitue ma famille, que je peux être autonome dans tous les aspects de la vie, que je peux et ose faire les choses par moi-même, que je peux trouver moi-même des solutions lorsqu'un problème survient et que j'ose franchir le pas quand cela est nécessaire. Mon conseil, c'est que si vous vous sentez prêt à franchir un cap et que vous en avez envie, lancez-vous. Qui ne tente rien n'a rien. Retrouvez l'histoire complète de Beau sur www.semaineligbraille.be. Une question ? Contactez notre service d'accompagnement ou notre Braille Shop. Dépasser la fracture numérique. L'idée Pedens D de nombreux seniors avec un trouble visuel lié à l'âge est le moment tant attendu où ils arrivent à apprivoiser les nouvelles technologies qui contribuent à rompre leur isolement. Pourtant, présente avec la crise sanitaire, la fracture numérique a été encore plus sévèrement vécue pendant la pandémie et les réponses se sont avérées plus urgentes. L'inclusion numérique en Belgique est à la traîne. Selon le baromètre d'inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin 2020, 40% de la population belge dispose de faibles compétences en nouvelles technologies. La déficience visuelle est un facteur aggravant qui les rend difficilement accessibles. Depuis le début de la pandémie en 2020,
l'intérêt pour ces nouvelles technologies a augmenté de façon exponentielle, aussi chez les personnes aveugles et malvoyantes. Être capable de manipuler un smartphone, une tablette ou un ordinateur constitue un atout considérable afin de briser l'isolement, particulièrement en période de crise sanitaire. Un senior déficient visuel peut ainsi continuer à avoir des contacts avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, sans avoir à se déplacer hors de son environnement sécurisant. En plus de ces avantages d'ordre social, les nouvelles technologies constituent un outil indispensable pour gérer son administration, sa mobilité, ou tout simplement pour avoir une ouverture sur le monde. Aujourd'hui, la Ligue Braille propose des loisirs et autres activités via le logiciel Zoom et l'intérêt suscité va toujours croissant. Notre service d'accompagnement reçoit de nombreuses questions de membres qui souhaitent apprendre à travailler avec un smartphone ou de personnes qui souhaitent mieux maîtriser des applications spécifiques. Flore, thérapeute à la Ligue Braille, nous donne quelques précisions à ce sujet. L'accompagnement a toujours comme point de départ un besoin spécifique dont un bénéficiaire nous fait part. Cela peut aller à prodiguer des leçons de base pour les personnes qui n'ont jamais manipulé un smartphone ou une tablette, à aborder des questions plus spécifiques comme passer un appel, envoyer un SMS, un email, régler l'alarme, gérer ses contacts, son app bancaire, l'enregistreur vocal, manipuler l'agrandisseur d'écran, utiliser son GPS. Nous examinons d'abord le profil de la personne en demande. Celle-ci est-elle aveugle et utilisera-t-elle uniquement la voix? Ou bien est-ce une personne malvoyante et dès lors les fonctions d'agrandissement sont-elles suffisantes? Ou autre possibilité, la personne travaillera-t-elle de manière hybride et utilisera-t-elle à la fois la voix et l'agrandissement? Il est crucial de déterminer cela avant toute chose, afin que l'accompagnement puisse être réalisé sur mesure. Une fois le profil déterminé et la question analysée, nous commençons à aborder l'accessibilité du téléphone. Chaque smartphone dispose de nombreux paramètres d'accessibilité de base. Pour les personnes qui travaillent entièrement ou partiellement via la voix, nous recommandons un iPhone car la fonctionnalité VoiceOver fonctionne très bien avec cette marque. Pour les personnes malvoyantes, pour qui les fonctions d'agrandissement suffisent, le choix entre un iPhone ou un Android importe peu. Ces premières étapes posées, l'accompagnement se poursuit individuellement en fonction des besoins et des connaissances préalables. Voici quelques astuces, paramètres d'accessibilité, pour les lecteurs qui maîtrisent déjà les bases. Safari Reader. Il s'agit d'une option qui vous permet de rendre les pages web plus faciles à lire. Safari est le navigateur web par défaut de l'iPhone. Lorsque vous recherchez un article via Safari, par exemple, il se peut que les pages soient polluées par des images, des publicités et d'autres textes superflus. En cliquant sur le bouton Safari Reader, en haut à gauche de la page, le texte est nettoyé de ces éléments gênants et vous pouvez même régler la police, sa taille et le contraste selon vos préférences. C'est très utile pour les personnes malvoyantes, pour qui une page surchargée est fastidieuse à lire, ou pour les personnes aveugles dont le lecteur d'écran se met à lire des informations inutiles. Lecture d'écran. Pour celles et ceux qui trouvent fatigant de lire un article de journal dans sa totalité, l'option « Lecture d'écran » vous sera utile. En faisant glisser deux doigts comme un V de haut en bas sur l'écran, une voix vous lira le contenu. Vous devez d'abord activer cette option dans les paramètres. Pour ce faire, cochez l'option « Lecture d'écran » dans les options d'accessibilité. Veuillez noter que s'il y a beaucoup d'images, de boutons inutiles ou de publicités, ceux-ci seront également lus. Pour éviter cela, il peut être intéressant d'activer au préalable Safari Reader lors des recherches sur Internet. Faire lire des mots ou des paragraphes à l'écran. Utile si vous souhaitez uniquement faire lire un mot ou un paragraphe à voix haute. Certaines applications sont capables de lire l'écran, mais certains mots sont un peu trop petits pour être lus. Il existe un contrôleur vocal pour cela, un bouton numérique que vous pouvez « attacher » entre guillemets à votre écran. Lorsque vous voulez lire un mot, appuyez d'abord sur le contrôle vocal 1, 2 ou 3 fois selon la façon dont vous l'avez configuré dans les paramètres. Puis, appuyez sur le mot, le paragraphe ou le message texte que vous souhaitez. Comme pour la fonctionnalité précédente, celle-ci s'active dans la rubrique « Accessibilité » des paramètres de votre téléphone. Écoutez ce que vous écrivez. Pour de nombreuses personnes, les touches du clavier d'un smartphone sont très petites et il peut être difficile de vérifier un texte rédigé par vos soins. D'où l'utilité d'avoir un outil qui prononce ce que vous venez d'écrire. Vous pouvez choisir de faire lire tous les caractères un par un, ou des mots entiers. Comme pour les fonctionnalités précédentes, celle-ci s'active dans la rubrique « Accessibilité » des paramètres de votre téléphone. Portrait. La passion du jeu. Jouer aux jeux vidéo avec un handicap visuel. Impossible ? Faux. Sven en est la preuve vivante. Connu dans le monde du gaming sous le nom de Blind Wire Sven, laissons-lui nous ouvrir les portes de son univers et le rôle que joue le jeu vidéo dans sa vie. Sven, que signifie le gaming pour vous ? Avant de devenir aveugle, j'étais déjà tout le temps derrière un ordinateur et en vacances, j'allais souvent en salle d'arcade. Pour moi, c'est un moyen de me détendre et de faire partie de la société. Cela m'a aussi énormément aidé à surmonter ma maladie. Être joueur professionnel aujourd'hui m'amuse et procure aussi des avantages. Je voyage, je participe à des tournois, je donne des interviews, etc. Mais au final, tout est une question de plaisir pour moi. Le jour où cela ne m'amusera plus, j'arrêterai. Quel impact a votre handicap sur votre pratique du jeu vidéo ? Quand j'avais 6 ans, on m'a diagnostiqué une tumeur qui a détruit mes nerfs optiques. J'avais peur de ne plus pouvoir jouer à des jeux vidéo. Mais heureusement, j'ai découvert qu'il y avait des alternatives pour les aveugles. En me concentrant uniquement sur le son, je peux jouer à des jeux comme Street Fighter et Pokémon. Bien sûr, j'ai souvent connu des déceptions quand certains jeux m'étaient inaccessibles, alors que mes amis et ma famille pouvaient y jouer. Mais ceux auxquels je pouvais jouer m'ont procuré beaucoup de plaisir et de distraction au fil des ans. À quoi jouez-vous le plus ? J'aime beaucoup l'univers sonore de Street Fighter, note de l'éditeur, un jeu de combat dans lequel les joueurs utilisent des attaques spéciales. Tout comme le système de jeu, le style de combat et les différents personnages. J'aime aussi jouer à d'autres jeux de combat, mais Street Fighter a ma préférence. Ce qui est bien, c'est que la victoire ne dépend pas que de vous. Vous gagnez ou vous perdez la partie en fonction de votre propre niveau de jeu et pas de facteurs aléatoires ou d'erreurs de votre partenaire. Quelles sont les réactions des autres gamers ? Au début, malheureusement, certains pensaient que je simulais une cécité. Mais depuis qu'ils me voient jouer à Street Fighter avec un bandeau sur les yeux, ils trouvent cela très impressionnant et veulent se mesurer à moi. Y a-t-il des jeux vidéo entièrement adaptés pour les personnes aveugles ou malvoyantes ? Non, c'est en effet quelque chose qui doit s'améliorer. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux sur le marché qui ont le potentiel pour être accessibles grâce à de simples adaptations. Heureusement, les entreprises prennent peu à peu conscience du fait que les joueurs ayant une déficience visuelle existent aussi. J'espère aussi un jour pouvoir travailler avec des développeurs pour rendre les jeux accessibles. L'été dernier, vous avez participé à notre stage de technologie. Comment l'avez-vous vécu ? J'ai été très bien accueillie et je n'hésiterai pas à y retourner. J'ai adoré voir les gens profiter de jeux qui me procurent moi-même autant de plaisir. Avez-vous un message à faire passer à nos membres ? Les choses semblent parfois impossibles à accomplir, mais si vous faites toujours de votre mieux et croyez toujours en vos rêves, il y a toujours un moyen pour y arriver. Persévérez. Si vous souhaitez admirer les talents de Sven, suivez sa chaîne sur Twitch, T-W-I-T-C-H. https://www.twitch.tv/blindwarriorsven. Technologie. This is the voice. Gérer son agenda, programmer son réveil, régler son thermostat, des gestes du quotidien parfois difficiles à poser pour les personnes en situation de handicap visuel. Heureusement, les assistants vocaux sont là pour les aider et la Ligue Braille pour leur apprendre à les apprivoiser. Un assistant vocal est un dispositif électronique à qui l'on donne des directives précises par le biais de la voix sur le principe de question-réponse ou encore action-réaction. Concrètement, la plupart des smartphones sur le marché incluent d'origine des assistants vocaux comme Siri ou Google. Une fois activé, l'utilisateur pourra de manière orale demander l'heure, demander à jouer un morceau de musique, passer un appel téléphonique, lancer un minuteur, envoyer un SMS, se rendre sur un site web, etc. Il existe des dispositifs appelés Alexa, Echo Dot ou encore Google Nest. Prix d'achat entre 30 et 40 euros selon les modèles. Il s'agit de petites enceintes connectées qui pourront jouer le même rôle qu'un smartphone, à la différence près qu'il n'y a pas d'écran. C'est comme si vous aviez un petit robot parlant à la maison à qui vous pouvez donner toute une série d'ordres et de consignes, comme celle-ci par exemple. Alexa, donne-moi la recette du bœuf bourguignon. Et moyennant l'appariement du dispositif d'assistance vocale avec d'autres objets connectés, il sera alors possible, grâce à la domotique, d'allumer sa télévision, d'éteindre la lumière, régler le chauffage ou encore programmer son lave-vaisselle. De plus en plus d'objets et d'actions du quotidien sont réalisables via un assistant vocal. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout le domicile puisse être équipé de cette technologie. Un confort appréciable pour toutes les personnes déficientes visuelles. Il est nécessaire de préciser quelques détails pratiques, comme le fait qu'une connexion Wi-Fi est indispensable pour bénéficier de cette technologie. De plus, une connaissance de base de l'utilisation d'un smartphone est requise pour profiter de l'assistance vocale sur ce type d'appareil. Quant aux enceintes comme Alexa, elles nécessitent une configuration préalable avant la première utilisation. Rassurez-vous, c'est très facile. En outre, la Ligue Braille pourra vous guider et vous apprendre comment vous en sortir. Vous pouvez également solliciter une personne voyante de votre entourage pour vous aider. On ne s'adresse pas à un assistant vocal comme à un être humain. Les ordres doivent être donnés de manière concise et avec une bonne élocution. On dira par exemple « allumez lumière » plutôt que « excusez-moi, serait-il possible d'allumer la lumière s'il vous plaît ?» Cela peut faire sourire. Mais c'est une précision qui a son importance. Par exemple, avec Google, il est nécessaire de dire « OK Google » pour que votre ordre soit pris en compte. En effet, la configuration de certains assistants vocaux nécessite l'analyse de votre voix ainsi que l'utilisation de certains mots-clés ou d'un lexique spécifique. Il s'agit d'une habitude à prendre rapidement assimilable. Pour plus d'informations, adressez-vous à notre service d'information sur les adaptations techniques. SIAT, qui se fera un plaisir de vous guider vers l'assistant vocal qui vous siéra le mieux. Vos droits. En direct du service social. Droits des personnes handicapées, services sociaux et d'aide à la personne, mobilité, accessibilité. Vous trouverez ici une information condensée et pratique centrée sur le handicap visuel et les mesures qui ont un impact important sur la vie sociale de nos bénéficiaires. Mesures énergétiques. En réponse à la hausse des prix de l'énergie de ces derniers mois, le gouvernement fédéral s'est mis d'accord sur un certain nombre de mesures. Il y aura une réduction de la TVA de 21 à 6 % sur l'électricité, provisoirement limitée à 4 mois, du 1er mars au 30 juin. Le gaz reste soumis à 21 %. En outre, une prime de chauffage de 100 euros sera accordée automatiquement pour tous les ménages belges. Cela vaut également pour les personnes qui bénéficient d'un tarif social. Ce tarif social sera également prolongé jusqu'au 30 juin. Changement de conditions pour la garantie des revenus aux personnes âgées, GRAPA. Depuis le 8 novembre 2021, certaines modifications ont été apportées aux règles concernant la garantie de revenus aux personnes âgées. 1. Une fois par an, le service fédéral des pensions vérifie si les personnes résident effectivement en Belgique. Désormais, cela ne sera plus vérifié pour les personnes de plus de 80 ans. 2. Vous pouvez séjourner à l'étranger pour un maximum de 29 jours par année civile, à condition que vous communiquiez à l'avance votre séjour à l'étranger. Depuis novembre, les jours de départ et d'arrivée en Belgique ne sont plus pris en compte et les courts séjours à l'étranger de maximum 2 jours, maximum 1 nuitée, ne sont plus à déclarer. 3. Même si ce n'est plus obligatoire, il reste recommandé de déclarer tous ces jours en Belgique de plus de 21 jours à une adresse autre que votre résidence principale. Transport scolaire pour les personnes handicapées. Prochainement, Les transports scolaires pour enfants en situation de handicap pourront emprunter les sites propres réservés aux transports en commun. Cela devrait assurer un flux plus rapide. Votée à la Chambre en décembre, la loi entrera en vigueur dès publication au Moniteur belge. Plus besoin d'attestation papier pour l'application du tarif social pour l'énergie. Une personne en situation de handicap qui perçoit une allocation du SPF Sécurité sociale a automatiquement droit au tarif social pour le gaz et l'électricité et ne doit pas présenter d'attestation papier. En cas d'insistance de la part de votre fournisseur, toute demande d'attestation doit être dirigée vers le SPF Économie, organisme compétent pour cette matière. Rectification de l'article Canne Blanche numéro 4, 2021. Allocation d'intégration, AI. Le prix du travail va baisser. L'information avait été précipitamment reprise du cabinet de la ministre fédérale, Karine Lalieu, au sujet du plafond des revenus autorisés pour l'allocation d'intégration. Toutefois, en attente de différents avis, l'accord n'a pas encore fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. Nous vous tiendrons informés. Bruxelles. Iris Kahr, Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap, CEAH. Depuis cette année, Iris Kahr a définitivement repris la compétence relative à l'évolution de la diminution d'autonomie des personnes âgées, plus de 65, et à l'évaluation des affections chez l'enfant, moins de 21, dans la région de Bruxelles-Capitale. Ce changement n'a aucun impact sur le bénéficiaire. Wallonie. Aide pour les inondations. En date du 9 décembre dernier, le gouvernement wallon a publié un arrêté concernant les sinistrés touchés par les inondations de juillet 2021, qui, par le passé, avaient bénéficié de l'intervention financière de l'AVIC pour l'acquisition d'aides matérielles, monte-escaliers, adaptation de salles de bain, lits médicalisés, etc. Cet arrêté autorise les personnes concernées à solliciter une nouvelle intervention de l'AVIC indépendamment des délais de remplacement habituellement en vigueur, et ce pour cause de force majeure. Vie quotidienne. Nouveauté. La journée des familles. La Ligue Braille organise la première journée des familles le 14 mai prochain. De jeunes déficients visuels de 6 à 18 ans et leurs familles pourront dialoguer en toute décontraction sous le regard de professionnels. Découvertes, échanges et détentes au programme. Pour gagner et conserver leur indépendance, les jeunes aveugles et malvoyants n'ont de cesse d'organiser leur quotidien en fonction de leur pathologie visuelle, en s'adaptant constamment à l'évolution de celle-ci. Combien d'enfants et de familles ne se trouvent-ils pas démunis, voire découragés face au handicap ? C'est pourquoi la Ligue Braille propose une palette d'activités de loisirs pour rencontrer leurs besoins. Celle-ci leur laisse entrevoir le champ des possibles en menant une vie de jeune de la manière la plus épanouissante et autonome. Outre les services sociaux qui gèrent les dossiers de demande d'aide, la Ligue Braille élargit sans cesse les propositions à destination du jeune public avec un handicap visuel. La Journée des familles est une belle occasion de les découvrir. Cet événement gratuit se présente comme une journée ludique, de découverte avec un côté amusement, mais aussi avec des moments d'échange, des groupes de parole. Les parents sont souvent demandeurs d'échanger sur des problématiques communes. Une programmation adaptée. Si le public adulte fréquente de manière régulière les activités culturelles et de loisirs, les jeunes restent en marge, souvent par méconnaissance de l'offre. Pourtant, après une première participation, la plupart d'entre eux deviennent accros. Aller à leur rencontre nous semblait dès lors indispensable, et aussi de leurs familles, qui les suivent au quotidien et se retrouvent parfois face à des difficultés. Déjà, nous ouvrons certains stages non résidentiels à la fratrie des enfants déficients visuels. La journée de famille, dont la première devait se tenir en 2020 dans le cadre du centenaire de la Ligue Braille, a été imaginée par un groupe de travail composé de collaborateurs de différents services de la Ligue Braille, loisirs, bibliothèques, ludothèques, volontariats, services d'accompagnement, et ce, afin de pouvoir rencontrer le plus grand nombre de questionnements. Le public pourra visiter les stands de la Ligue Braille et de ses partenaires et participer aux animations qui ponctueront la journée. L'idée est bien sûr de mettre au programme ce qui intéresse les jeunes. Le gaming par exemple, ou en matière de musique, nous avons convié deux artistes, Blanche et Funky Fool, qui ne manqueront pas de plaire à notre jeune public. Si la Ligue Braille organisait déjà des rendez-vous thématiques comme le Braille Tech, elle n'avait toutefois jusqu'ici rien développé à destination du jeune public déficient visuel. La journée des familles permet désormais de combler ce manque. Des groupes de parole. Des moments de parole seront proposés aux parents et aux adolescents qui manifestent un réel besoin d'échanger, et ce, dans un contexte confidentiel. Ils seront organisés dans des espaces séparés avec des animateurs externes à la Ligue Braille qui ont de l'expérience dans ces thématiques. Meet the Parents rassemblera les parents autour de la thématique « Du temps pour tout et pour tous ». On y discutera de leur quotidien, des difficultés spécifiques qu'ils rencontrent et de l'autonomisation de l'enfant déficient visuel. Et aussi, envisager des pistes d'amélioration. Comment faire pour libérer du temps pour eux-mêmes, mais aussi pour les frères et sœurs. Look and Love est destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. Le thème, image de soi et relation avec les autres. On y parlera de choses davantage réservées aux adolescents, comme la vie affective ou la découverte de la sexualité. Ce sont des sujets dont ils peuvent difficilement parler, qui ne sont parfois pas du tout évacués. Quelques informations pratiques. Un bar et une restauration sur place vous permettront de vous désaltérer et de vous restaurer après démocratique. Pour des raisons organisationnelles, l'accès à la journée des familles se fait sur inscription préalable via le formulaire d'inscription en ligne sur braille.be. Cet événement est ouvert à toutes les familles avec un enfant en situation de handicap visuel, membre et non membre de la Ligue Braille. Les familles membres de la Ligue Braille recevront quant à elles une invitation par poste. Consultez notre site web et suivez-nous sur Facebook pour en savoir davantage. Adresse : La Tricoterie, rue Théodore Verhagen, 158, à 1060 Bruxelles. L'endroit est situé non loin de la Ligue Braille et donc proche de la gare du Midi. Au plaisir de retrouver nos jeunes membres et leurs familles. Programme de la journée. Divers stands vous accueilleront. Un stand de la bibliothèque présentera l'offre jeunesse. La ludothèque proposera des jeux adaptés. Du bricolage avec un atelier au départ de matériaux recyclés. Un stand de nouvelles technologies avec des animations de gaming et la découverte d'applications via l'iPhone. Le stand Look and Love pour les adolescents consacrés à l'image de soi, à l'éducation et à la vie affective et sexuelle. Du sport avec, entre autres, une Showdown Table, tennis de table adapté. Autres animations. 10h30. Saïd Garbi, artiste aveugle, invite tout jeune amateur à la danse contemporaine. 11h30. Bow Wakers, tube de différentes couleurs et longueurs produisant une note précise. 15h. Une animation ouvrira la malle à histoire. Musique. 16h30. Blanche, révélée à The Voice Belgique, est arrivée à la 4e place du concours Eurovision de la chanson 2017. Ensuite, un DJ set de Funky Fool, jeune artiste de la scène électro-belge. À noter dans votre agenda. La Ligue Braille sera présente à Namur du 5 au 7 mai à Autonomie, le salon qui rassemble l'offre la plus complète de produits et de services répondant aux besoins de personnes en perte de mobilité ou en situation de handicap. Vous êtes les bienvenus. Plus d'infos sur www.autonomie.be. Nouvelles du Braille Shop. Au Braille Shop, nous vous aidons à maintenir votre qualité de vie et à mener vos activités en toute indépendance. En fonction de votre situation, de vos besoins et de vos attentes, nous vous conseillons sur près de 500 aides techniques pratiques qui vous permettront d'être plus autonome dans tous les aspects de la vie quotidienne. Se déplacer avec des cannes d'appui, d'identification ou de locomotion et d'autres articles pour signaler une déficience visuelle. Garder la notion du temps avec notre gamme de montres aux grands chiffres, en braille ou parlante. Communiquer avec des téléphones mobiles, adaptés, des claviers de PC adéquats, des guides d'écriture, etc. Étudier avec des aides pour lire, dessiner et compter. Surveiller sa santé à l'aide d'aides médicales telles que des tensiomètres, des thermomètres médicaux, des balances ou des boîtes de médicaments. faire le ménage, cuisiner, économiser de l'argent, soigner son apparence et ses vêtements, bricoler, enregistrer des messages audio à réécouter plus tard. Une vie sociale et des loisirs de qualité grâce à des articles de sport et des jeux adaptés. En bref, nous offrons tous les éléments nécessaires pour que vous soyez indépendant et à l'aise, pour rompre l'isolement et participer à la vie en société. Parfois, bien sûr, la clé de l'indépendance réside dans votre propre créativité et ingéniosité, en utilisant de simples petits objets tels que des marqueurs, des indicateurs de son et de temps de cuisson, des porte-chaussettes. Le Braille Shop reste disponible sur rendez-vous à Bruxelles les mardis, mercredis et jeudis, et par téléphone du lundi au jeudi, entre 10 et 12 et 13h30 et 16h. Pour obtenir les dernières nouvelles sur notre fonctionnement, nos activités, les articles disponibles et les prix, rendez-vous sur notre site www.braille.be/brailleshop. Emploi. Mesures fédérales pour l'emploi. Le plan d'action fédéral handicap, analysé dans le dossier de notre précédent numéro, vise aussi à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Le point avec les ministres de l'Emploi et de la Fonction publique. Le travail et l'emploi constituent un des axes les plus consistants du plan d'action mis en œuvre par la ministre Karine Lallieu, en charge des personnes handicapées. Même si l'emploi et la formation relèvent des régions et communautés, le gouvernement fédéral a encore d'importants leviers en main pour faire bouger les lignes. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Économie et du Travail, et Petra de Sutter, ministre de la Fonction publique. Monsieur Dermagne, les personnes en situation de handicap ont droit à des aménagements raisonnables destinés à favoriser un environnement de travail inclusif. Sur le terrain, toutefois, elles ont beaucoup de mal à faire respecter ce droit. Concrètement, que comptez-vous faire pour y remédier ? Mon objectif capital est de parvenir à façonner un monde du travail plus inclusif. Je souhaite non seulement parvenir à harmoniser au mieux nos vies privées et professionnelles, mais aussi réduire les discriminations. Concernant cette lutte, je ne reste pas les bras croisés. Je travaille à rendre les plus efficaces les tests de discrimination. Un travailleur en situation de handicap dont la candidature se retrouvera écartée pourra s'adresser à l'inspection du travail. Cette dernière investiguera afin de vérifier si l'employeur discrimine ou non les personnes en situation de handicap. Je souhaite également développer un monitoring sectoriel de la diversité. Diverses données statistiques indiqueront notamment le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap dans tel ou tel secteur. Des secteurs seront donc invités à faire des propositions afin de faciliter une mise à l'emploi de toutes et tous. Enfin, je cherche aussi à rendre plus visibles ces plans d'action positives qui permettent à une entreprise ou un secteur de prendre des mesures spécifiques à l'égard d'un groupe défavorisé sur le marché de l'emploi. Il peut s'agir par exemple d'une campagne de recrutement réservée pour certains groupes cibles ou d'une assistance dans le cadre de procédures de recrutement. En ce qui concerne les outils pour une meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle, j'ai augmenté la durée pour le congé d'aidant proche. Le travailleur qui aide un proche peut dorénavant prendre jusqu'à 3 mois de congé à temps plein ou jusqu'à 6 mois s'il réduit ses prestations à 4/5 ou mi-temps. Madame de Sutter, le taux de participation des personnes handicapées au sein de l'administration fédérale n'est que de 1,22% en 2021. Le plan d'action fédéral en faveur des personnes en situation de handicap veut faire passer ce chiffre à 3%. Quelles mesures allez-vous prendre pour y parvenir ? En tant que ministre de la Fonction publique, je veux jouer un rôle actif dans la réalisation de cet objectif. Avec le comité d'orientation pour le recrutement des personnes en situation de handicap, je travaille donc à un certain nombre d'actions concrètes pour rendre le système actuel plus efficace. Par exemple, j'ai déjà libéré un budget pour rendre le télétravail plus accessible aux personnes en situation de handicap. Un bureau adapté, un clavier pour les personnes malvoyantes ou un logiciel de sous-titrage peuvent apporter un soutien au télétravail. En outre, avec mes collègues Lallieu et Schlitz, Note de l'éditeur Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité. J'investis dans un guide de planification pour les réunions inclusives, en ligne. La politique de recrutement peut également être améliorée afin de maximiser les chances d'être embauché. Des ajustements raisonnables peuvent être apportés aux procédures de sélection. Pensez par exemple à du temps supplémentaire ou à des PC équipés d'un logiciel de lecture ou d'un affichage en braille. Afin d'optimiser la démarche, un groupe de réflexion a également été mis en place, au sein duquel nous dialoguons avec des experts. Pour ce groupe de réflexion, nous recherchons toujours des collaborateurs aveugles ou malvoyants qui travaillent à l'administration fédérale. Si vous êtes intéressé d'y participer, vous pouvez envoyer un email à info@dessuterre.fed.be. Nouvelle formation au CFP de la Ligue Braille. Permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de trouver ou de maintenir un emploi est l'un des chevaux de bataille de la Ligue Braille. Le Centre de formation professionnelle, CFP, propose des formations adaptées et accessibles et lance même en 2022 de tout nouveaux programmes. Formations modulables et programmes sur mesure sont au menu. Plus d'infos dans notre prochain numéro. Curieux d'en savoir davantage sans attendre, contactez Aurore Gerland, aurore.gerland@braille.be ou au 02 533 33 80 ou Christelle Magnette, christelle.magnette@braille.be 02 533 33 83. Loisirs. Des loisirs en présentiel et en virtuel. L'offre de loisirs proposée par la Ligue Braille ne s'est pas arrêtée, mais s'est réinventée pendant et suite au confinement. Elle continue dans le respect des règles sanitaires en poursuivant des activités hybrides, dédoublées en présentiel et en virtuel. Jusqu'en mars 2020, les loisirs en présentiel étaient la règle. Personne alors n'imaginait devoir développer des alternatives. Parfois, une crise peut être l'occasion d'explorer et de proposer de nouveaux moyens de communication et de partage. Nos animateurs ont mis en place quelque chose de précieux, car cette formule hybride étant neuve, elle n'était pas toujours facile à organiser. Ce fut comme un nouveau métier pour eux. Ces activités hybrides se maintiennent, car il a été constaté que les activités virtuelles attirent un public qui ne franchirait pas la porte des antennes pour des activités en présentiel. La peur de la pandémie est toujours bien présente et nous nous trouvons aussi face à des personnes souvent à mobilité réduite qui préfèrent dès lors le confort de leur quotidien chez eux. Ces activités virtuelles concernent bien des domaines. D'une simple papote à l'occasion d'un café braille, à la vision chez soi d'un programme culturel ou d'un cours de cuisine en passant par des formations numériques et autres. Des rendez-vous rassembleurs hebdomadaires. Les clubs braille, fréquentés par les bénéficiaires depuis des années, ont évolué en café braille. Les clubs braille offrent la possibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes de rencontrer des personnes comprenant leurs déficiences et partageant des expériences similaires. Ils sont l'occasion pour eux de se retrouver, de discuter et de participer à une activité. Autrefois, on pouvait y accueillir jusqu'à 15 bénéficiaires encadrés de 5 volontaires. Actuellement, il est possible de les ouvrir à un nombre réduit de personnes. D'où la nécessité de proposer une alternative virtuelle, car ces rendez-vous hebdomadaires ont vraiment un rôle social de rassemblement. Le retour des excursions et un voyage. Entre les deux confinements, des balades comptées étaient proposées dans les parcs à des groupes réduits. Le concept se maintient et les excursions reprennent également au printemps. Ce sont des initiatives où les bénéficiaires prennent ensemble les transports en commun, visitent un musée en matinée, partagent un moment au restaurant et profitent d'une autre activité dans l'après-midi. Ceci est aussi important en termes d'autonomie car les participants sont invités à prendre les transports en commun vers un lieu de visite. Un moment essentiel pour sortir de la routine du quotidien chez soi. À noter aussi, un voyage en Drôme provençal du 19 au 25 septembre 2022. Son titre accrocheur, au fil du Rhône, convie à un magnifique séjour dans le château de Collonges, au cœur de la Drôme des Collines. Au départ de ce lieu de villégiature, de prestige, labellisé « tourisme et handicap », nous partirons à la découverte de l'artisanat gastronomique de la région, ainsi que de son patrimoine historique et culturel. Chaque bénéficiaire doit être obligatoirement accompagné d'une personne mobile et voyante. Les départs sont prévus à partir de Bruxelles, Charleroi et Liège. Inscription bib@braille.be. N'oubliez pas de signaler si vous êtes végane, végétarien, végétalien ou autre. Date limite d'inscription, le 30 juin. Les enfants et familles. Le samedi 14 mai 2022 aura lieu la première journée des familles à la Tricoterie à Saint-Gilles. Différents stands, animations, rencontres proposeront des thèmes particuliers. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet en page 24. Les stages pour enfants reprennent comme autrefois pendant les vacances de carnaval, de Pâques et de la Toussaint. Les stages pour les 6-12 à la mer, en été, s'apparentent aux stages classiques pour les enfants voyants. Profiter de la plage, cuistax, canoë. Si ce n'est que l'accent y est mis sur l'autonomie. Les activités répondent aux besoins de l'accessibilité. Apprendre à nouer ses chaussures, à remplir son propre verre, à manger avec des couverts. Les 6-12 se retrouveront aussi, du 8 au 12 août, à la ferme pédagogique du Fagotin à Stoumont, où, au travers de jeux sensoriels, ils pourront découvrir les habitudes et soins des animaux de la ferme. Cet été également, un stage urbain est prévu du 25 au 29 juillet à Bruxelles pour les adolescents et jeunes adultes de 16 à 20 ans. Rendez-vous pour une semaine à l'auberge de jeunesse Jacques Brel, avec au programme des activités variées. Visite du musée des égouts, promenade street art, escape game et Coesio, atelier d'autonomie à la Ligue Braille, rencontre avec Job Coach, atelier culinaire avec courses comprises, je réalise mon premier menu de A à Z, sortie festive nocturne, sortie culturelle nocturne. Toutes ces informations sont rassemblées dans une brochure que vous pouvez vous procurer sur simple demande à loisirs@braille.be. La vie en 2.0 et en live. L'activité qui remporte le plus de succès est le club numérique virtuel. Un exemple. Il y a eu 25 inscrits en décembre 2021. Il se complète actuellement d'un club en présentiel. L'avantage de celui-ci est que l'animateur peut faire prendre en main le téléphone du bénéficiaire et le guider concrètement. Le mode virtuel fait plutôt l'état des lieux des nouveautés numériques. Nos animations culturelles, comme l'accueil des conférenciers, musiciens, se font aussi pour un nombre limité de personnes en présentiel. Elles sont dès lors retransmises en direct via la chaîne YouTube de la Ligue Braille. D'autres activités hybrides comme les clubs de lecture, les rancards proposés par la bibliothèque, les tables de discussion en anglais se font via Zoom avec possibilité dès lors d'interaction. Et cela permet d'augmenter l'auditoire. C'est une belle opportunité d'avoir quelques fois par mois une animation culturelle chez soi en simple spectateur. Ou culinaire. Les ateliers La Bonne Fourchette, organisés initialement à Bruxelles, offrent l'occasion de cuisiner ensemble et de partager ensuite le repas concocté. Pendant les confinements, l'animateur a accueilli les participants dans sa cuisine personnelle, mais virtuellement. Actuellement, cette activité est reprise en présentiel une fois par mois, mais les gens apprécient toujours ce moment de cuisine chez notre animateur. Formule qui se rapproche un peu de ce que l'on nous présente à la télé. Signalons encore les séances mensuelles à Bruxelles de cinéma en audio-description, suivies d'une discussion autour d'un bol de soupe, les ciné-soupes, accessibles pour le moment à une jauge réduite. Et un thé dansant sera organisé en novembre 2022 avec une scène et un orchestre. L'activité ayant lieu au siège de Bruxelles, elle pourra toutefois rassembler tous les amateurs vu la proximité de la gare du Midi. Une nouvelle façon d'afficher son autonomie. Bien évidemment, en fonction des mesures sanitaires. L'idée a fait son chemin. La Ligue Braille n'abandonnera pas le virtuel aux côtés du présentiel. Photo. Notre chef Marc prépare toujours quelque chose de savoureux pendant les ateliers La Bonne Fourchette. Télé et accessibilité. Vous aimez la télé, mais ne savez pas toujours si une autodescription existe, ni comment l'activer. Avec la collaboration du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CAS, la RTBF et les opérateurs distributeurs rencontreront le public déficient visuel pour informer et échanger sur l'accessibilité des programmes. Cet atelier se tiendra au siège bruxellois de la Ligue Braille le vendredi 22 avril à 14h, sous réserve de confirmation et de l'évolution de la situation sanitaire. Intéressé? Contactez la BIB 02 533 32 40 ou bib@braille.be. Quoi de neuf à la bibliothèque? Top 5 des livres audio. La disparition de l'île Mouzin, d'Armel Diop, numéro 35374. Hiver 2011. Deux petites filles se noient dans la Meuse. La plus jeune est tombée à l'eau et sa sœur, qui pourtant ne savait pas nager, a tenté de la sauver. Quelques jours plus tard, un pompier de Liège perd la vie en cherchant les corps. Premier sang, d'Amélie Nothomb, numéro 35726. Sous la forme d'un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique, qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. 1991, de Franck Tillier, numéro 35204. En 1991, quand Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien. L'illusion, de Maxime Chattam, numéro 34511. Bienvenue à Valcarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu des bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais déjà quelque chose l'inquiète. La datcha, d'Agnès Martin-Lugan, numéro 35072. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. Je ne tiendrai pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Quoi de neuf à la ludothèque? Mémotager, M21014, est un memory sous forme de petit potager en bois qui invite les joueurs à récolter deux légumes identiques à la suite. Colorful Harmony, M21053. Inventez vos propres règles avec Colorful Harmony et laissez parler votre imagination. Vous pouvez réaliser vos propres constructions ou même vos propres jeux. Peg Domino, M21019. Développe chez l'enfant les compétences d'ordre et de correspondance des couleurs, textures, ainsi que le perfectionnement de la motricité fine. D'autres envies ludiques? Demandez la nouvelle liste complète des jeux au 02 533 32 40 ou par mail bib@braille.be. Merci. La VisuBox pour les professionnels. En 2009, la Ligue Braille lançait la BrailleBox, mallette pédagogique à destination des enfants du primaire pour les sensibiliser à la déficience visuelle et à l'écriture Braille. En 2022, suite à plusieurs demandes des professionnels, voici la VisuBox. La VisuBox se fonde sur les mêmes objectifs que la BrailleBox. Celle-ci avait été imaginée pour sensibiliser les adultes de demain au monde du handicap visuel. En 2009, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Braille, la Ligue Braille avait lancé une campagne de sensibilisation sur ce que représentent la malvoyance et la cécité. Le monde enseignant avait perçu la nécessité d'en parler aux élèves. Ainsi était née cette mallette pédagogique qui a pour fil rouge la journée d'une petite fille atteinte de déficience visuelle. Elle présente le matériel adapté pour vivre en toute autonomie. Canne blanche, montre en relief, détecteur de niveau, latte graduée, machine braille. La valise inclut aussi des lunettes simulant différentes pathologies qui permettent aux enfants de se mettre en situation. Le tout accompagné d'un solide dossier pédagogique. Demande du milieu professionnel. Ultérieurement, la Ligue Braille a reçu plusieurs demandes de professionnels en contact avec des personnes présentant des déficiences visuelles, maisons de repos, écoles d'ergothérapeutes, aide familiale. Un groupe de travail rassemblant différents collègues de terrain a alors été mis sur pied pour concevoir un outil adapté à ce nouveau public. La VisuBox se décline. Le contenu de la VisuBox est pensé en lien avec les différents besoins des professionnels. Le matériel didactique est adapté au public visé. On y retrouve les trois types de cannes blanches. Un réveil parlant, du matériel d'écriture, deux jeux adaptés, du matériel de santé tel qu'une boîte à médicaments. Le dossier pédagogique, qui est conçu pour de futurs éventuels professionnels, est aussi plus riche. Il est articulé autour de thématiques comme la mobilité, prendre soin de soi et sa santé, le quotidien à la maison et au travail, la communication et l'administration. Pour chaque thème, on s'attarde sur l'impact social de la pathologie visuelle, propose différents exercices de mise en situation et présente les aides existantes. La VisuBox décrit 10 pathologies visuelles les plus fréquentes. Lunettes de simulation à l'appui, là où la BrailleBox se limitait aux trois principales compréhensibles pour un jeune public. Évidemment, la VisuBox ne fait pas l'impasse sur les technologies qui soutiennent l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. À titre d'exemple, l'iPhone dispose d'un système vocal qui permet de vocaliser ce qu'il y a sur l'écran, le voice-over. Participation financière et intellectuelle. La réalisation de ce nouvel outil d'information et de sensibilisation a été soutenue financièrement par Veolia, entreprise active dans la formation écologique qui compte effectivement plusieurs collaborateurs déficients visuels parmi son personnel. Le deuxième coup de pouce est venu d'un groupe d'étudiants de master en santé publique à l'ULB qui consacrent leur mémoire à la déficience visuelle. Nourage Baclot, Morgane Guillaume-Marche et Julien Potte ont aidé à la reformulation de certains aspects du dossier pédagogique. La VisuBox sera présentée en première à l'hôpital Erasme en avril prochain. L'institution a en effet décidé de former son personnel d'accueil à la VisuBox, des bénévoles guidant les patients. Main dans la main avec tous les professionnels. La VisuBox s'adresse à tous les professionnels en contact régulier ou occasionnel avec des personnes aveugles et malvoyantes. Les futurs ophtalmologues, afin qu'ils sachent comment orienter leur patientèle atteinte de malvoyance ou de cécité. Les spécialistes des yeux sont encore trop souvent confrontés à des questions très concrètes face auxquelles ils sont démunis. Comment se préparer à manger? Faire une lessive? Comment garder une vie sociale? Les aides ménagères, elles aussi, sont amenées à côtoyer des personnes aveugles ou malvoyantes. Elles doivent savoir qu'il est important de remettre en place les objets qu'elles déplacent à l'endroit où elles les ont trouvés. L'entreprise qui emploie des travailleurs avec un handicap visuel aura à cœur de sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils adaptent leur comportement. Quand on entre dans un bureau, on frappe à la porte, on s'annonce et on signale quand on sort. Les différents thèmes abordés dans le dossier incitent chacun à piocher ce qu'il doit savoir en fonction de ses compétences et des besoins de personnes en situation de handicap visuel. Merci à nos partenaires Veolia et aux étudiants de l'ULB. Merci aussi aux membres du personnel qui ont collaboré à la conceptualisation et à la réalisation de la VisuBox. Sans eux, celle-ci n'aurait pu exister. En pratique. En pratique, tout comme pour la BrailleBox, la VisuBox peut être empruntée gratuitement, moyennant une caution et pour une durée de 2 semaines. La VisuBox est disponible au siège social de Bruxelles et dans chaque maison locale de la Ligue Braille. Vous êtes en contact avec des personnes déficientes visuelles dans votre pratique professionnelle et vous aimeriez plus d'informations? Un contact. Audrey Debaute, responsable du service volontariat. audrey.debaute@braille.be ou 02 503 32 88. Ligue Braille. Canne blanche trimestrielle de la Ligue Braille est une production du service communication en collaboration avec les différents services de l'association. Photo, cabinet d'Ermagne, Jess de Meulenard, Veolia, ULB, Blindwire Sven, DJ Funky Fall, Jean-Michel Bill, Braille Liga. Impression, Daddy Kate. Abonnement, 15 euros à verser sur le compte BE11 4x0 04 68 02 48. BIC BPOTBEB1. Communication, abonnement canne blanche. Gratuit pour les personnes aveugles et malvoyantes et pour les donateurs pour tout don à partir de 40 euros. Disponible en PDF, www.braille.be. En braille et sur CD DESI. Info. Aidez-nous à éviter les gaspillages. En cas de déménagement, d'erreur dans vos coordonnées ou si vous recevez cette revue en double, merci de nous en avertir. Ne vous laissez pas abuser par des personnes peu scrupuleuses. La Ligue Braille ne vend rien, ni de porte à porte, ni sur la voie publique. La Ligue Braille est une association neutre, attachée aux valeurs démocratiques et active dans l'ensemble du pays. Elle est au service de toutes les personnes aveugles et malvoyantes. Contact. Ligue Braille, ASBL, rue d'Angleterre, 57 1060 Bruxelles. Téléphone 02 533 32 11. Email info@braille.be. Site www.braille.be. Compte pour faire un don. IBAN BE 11 2 fois 4 fois 0 48 48. BIC BPOTBEB1. Éditeur responsable, Noëlla Jardin, rue d'Angleterre 57, 1060 Bruxelles. La Ligue Braille traite vos données personnelles dans le respect de vos droits et de ses obligations conformément au règlement général sur la protection des données, RGPD. Pour toute question au sujet du traitement de vos données, consultez notre Privacy Policy sur www.braille.be. Pour consulter, modifier, supprimer vos données ou pour toute autre question, contactez-nous par voie postale ou via info@braille.be. Agenda des activités, deuxième trimestre, avril-mai-juin 2022. Animation virtuelle en vidéoconférence via l'application Zoom. Inscription obligatoire par téléphone au 02 533 32 84 ou par email à loisirs@braille.be. Lundi 4 avril, 14 à 16 heures, rencard de la bibliothèque. Récit de voyage. La bibliothèque prend la route pour une animation au parfum d'ailleurs. Diffusion en direct. Mardi 5 avril, 10 à 12 heures, club numérique virtuel, questions-réponses. Mercredi 6 avril, 14 à 16 heures, retransmission virtuelle de l'animation culturelle de Bruxelles, compte avec Schems, diffusion en direct. Jeudi 14 avril, de 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Mardi 19 avril, de 10 à 12 heures, club numérique virtuel, l'iCloud Drive. Jeudi 21 avril, 14 à 16 heures, retransmission virtuelle de l'animation culturelle de Bruxelles, harpe et chant avec Madame Cécile Maréchal, diffusion en direct. Vendredi 22 avril, 10 à 12 heures, la bonne fourchette virtuelle. Mercredi 27 avril, 14 à 16 heures, club de lecture. Jeudi 28 avril, 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Toujours jeudi 28 avril, de 14 à 16 heures, café Braille virtuel. Lundi 2 mai, 14 à 16 heures, rencard de la bibliothèque, en passant par Assise, un récit sur le chemin de Compostelle avec Joël et Nadine Mathès-Jacques, diffusion en direct. Mardi 3 mai, 10 à 12 heures, club numérique virtuel, questions-réponses. Mercredi 4 mai, 14 à 16 heures, retransmission virtuelle de l'animation culturelle de Bruxelles, concert, piano et chant avec Géraldine Noos, diffusion en direct. Jeudi 5 mai, 14 à 16 heures, café Braille virtuel. Jeudi 12 mai, 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Jeudi 12 mai toujours, de 14 à 16 heures, café Braille virtuel. Mardi 17 mai, de 10 à 12 heures, club numérique virtuel, L'application note. Jeudi 19 mai, de 14 à 16 heures, retransmission virtuelle de l'animation culturelle de Bruxelles. Concerts, musique variée, diffusion en direct. Jeudi 20 mai, de 10 à 12 heures, la bonne fourchette virtuelle. Mercredi 25 mai, de 14 à 16 heures, club de lecture. Mardi 31 mai, de 10 à 12 heures, club numérique virtuel, les mises à jour. Mercredi 1er juin, de 14 à 16 heures, retransmission virtuelle de l'animation culturelle de Bruxelles, concert piano, diffusion en direct. Jeudi 2 juin, de 10 à 11h30, table de conversation en anglais. Toujours le jeudi 2 juin, de 14 à 16 heures, café braille virtuel. Jeudi 9 juin, de 14 à 16 heures, café braille virtuel. Lundi 13 juin, de 10 à 12 heures, la bonne fourchette virtuelle. Lundi 13 juin, de 14 à 16 heures, rencard de la bibliothèque. Jules Verne, l'auteur des voyages extraordinaires. Venez en découvrir plus sur cet auteur qui continue à faire rêver les grands comme les petits. Diffusion en direct. Mardi 14 juin, de 10 à 12 heures, club numérique virtuel, les applications de navigation. Jeudi 16 juin, de 10 à 11h30, table de conversation en anglais. Toujours jeudi 16 juin, de 14 à 16 heures, retransmission virtuelle de l'animation culturelle de Bruxelles, concert piano-chant, diffusion en direct. Mercredi 22 juin, de 14 à 16 heures, club de lecture. Jeudi 23 juin, de 14 à 16 heures, café braille virtuel. Mardi 28 juin, de 10 à 12 heures, club numérique virtuel. Quel bilan et questions-réponses. Jeudi 30 juin, de 10 à 11h30, table de conversation en anglais. Et toujours le jeudi 30 juin, de 14 à 16 heures, café braille virtuel. Les activités virtuelles. Atelier culinaire virtuel. Éveillons nos papilles à distance en assistant à la préparation d'un succulent repas grâce au pouvoir d'évocation de Marc, notre chef coq. Café braille. Le jeudi après-midi, rendez-vous virtuel au café braille. Retrouvons-nous pour papoter, blaguer ou jouer chacun devant un café ou un thé. Club de lecture virtuel. Retrouvons-nous pour discuter littérature autour d'un thème choisi par le groupe lors du club précédent. Activité en présentiel. Inscription obligatoire par téléphone au 02 533 32 84. Ou par email à loisirs@braille.be. Ce trimestre, nous vous proposons la suite du cycle d'animation sur le thème de la zoothérapie et méditation animale, ou comment la relation être humain-animal peut favoriser le bien-être. Grande nouvelle, nous vous proposons également de reprendre doucement la route vers des excursions. Découvrez le programme pour chacune de nos antennes régionales. Ces excursions seront proposées selon le respect des normes sanitaires en vigueur. Un COVID safety kit sera également obligatoire pour vous ainsi que pour votre accompagnant ou accompagnante. Hâte. Rue de la station 41, 7800 Hâte. Lundi 25 avril, de 10 à 16 heures, café braille. Lundi 2 mai, de 10 à 12 heures, animation, zoothérapie et méditation animale. Horaire à confirmer. Lundi 16 mai, de 10 à 16 heures, café braille. Jeudi 2 juin, horaire à confirmer, visite de l'exposition « L'âge de la bière » à l'espace gallo-romain. Lundi 13 juin, de 10 à 16 heures, café braille. Bruxelles, rue d'Angleterre 57, 1060, Saint-Gilles. Lundi 4 avril, de 10 à 16 heures, rencard de la bibliothèque. Récit de voyage, la bibliothèque prend la route pour une animation au parfum d'ailleurs. Mercredi 6 avril, de 10 à 16 heures, animation culturelle, conte avec Shems. Jeudi 7 avril, de 10 à 11h30, table de conversation en anglais. Mardi 12 avril, de 10 à 12 heures, club numérique, Like Loud. mercredi 20 avril, de 11 à 14 heures, ciné-soupe. Jeudi 21 avril, de 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Jeudi 21 avril, de 14 à 16 heures, animation culturelle, harpe et chant avec Cécile Maréchal. Mardi 26 avril, de 10 à 12 heures, club numérique, questions-réponses. Mardi 26 avril, de 10 à 16 heures, club dentelle. Mercredi 27 avril, de 14 à 16 heures, club jeu de go. Vendredi 29 avril, de 10 à 14 heures, atelier culinaire, la bonne fourchette. Lundi 2 mai, de 14 à 16 heures, rancard de la bibliothèque. En passant par Assise, un récit sur le chemin de Compostelle avec Joël et Nadine Mathès-Jacques. Mercredi 4 mai, de 14 à 16 heures, animation culturelle, concert piano et chant avec Géraldine Nos. Jeudi 5 mai, de 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Mardi 10 mai, de 10 à 12 heures, club numérique, quelques éléments de réglage de l'iPhone et de l'iPad, suite. Mardi 10 mai, toujours, de 10 à 16 heures, café Braille. Mercredi 11 mai, de 14 à 16 heures, club jeu de go. Vendredi 13 mai, 10 à 14 heures, atelier culinaire, la bonne fourchette. Mercredi 18 mai, de 11 à 14 heures, ciné-soupe. Jeudi 19 mai, de 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Toujours le jeudi 19 mai, de 14 à 16 heures, animation culturelle, concert, musique variée. Mardi 24 mai, de 10 à 12 heures, club numérique, questions-réponses. Mardi 24 mai toujours, de 10 à 16 heures, club dentelle. Mercredi 25 mai, de 14 à 16 heures, club jeu de go. Mercredi 1er juin, de 14 à 16 heures, animation culturelle, concert piano. Vendredi 3 juin, de 10 à 14 heures, atelier culinaire, la bonne fourchette. Mardi 7 juin, de 10 à 12 heures, club numérique, les navigateurs Internet. Jeudi 9 juin, de 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Vendredi 10 juin, horaire à confirmer, visite du musée Old Masters. Lundi 13 juin, de 14 à 16 heures, rencard de la bibliothèque. Jules Verne, l'auteur des voyages extraordinaires, venez en découvrir plus sur cet auteur qui continue à faire rêver les grands comme les petits. Mardi 14 juin, de 14 à 16 heures, café Braille. Mercredi 15 juin, 11 à 14 heures, ciné-soupe. Jeudi 16 juin, 14 à 16 heures, animation culturelle, concert piano et chant. Mardi 21 juin, 10 à 12 heures, club numérique. Jeudi 23 juin, 10 à 11 heures 30, table de conversation en anglais. Mardi 28 juin, 10 à 16 heures, club dentelle. Mercredi 29 juin, 10 à 16 heures, club jeu de go. Charleroi, boulevard Joseph Thiroux, 12, 6000 Charleroi. Mardi 19 avril, 10 à 16 heures, café Braille. Vendredi 29 avril, 13 à 15 heures, animation, zoothérapie et méditation animale, horaire à confirmer. Vendredi 6 mai, 10 à 16 heures, café Braille. Mardi 17 mai, 10 à 16 heures, café Braille. Vendredi 3 juin, 10 à 16 heures, café Braille. Mardi 14 juin, 10 à 16 heures, café Braille. Vendredi 24 juin, visite de l'atelier de la manufacture urbaine, à confirmer. Jambes, rue de la Croix-Rouge, 31, 5100 Namur. Jeudi 21 avril, 10 à 16 heures, café Braille. Mardi 26 avril, 13 à 15 heures, animation zoothérapie et méditation animale, horaire à confirmer. Mardi 3 mai, 10 à 16 heures, café Braille. Jeudi 19 mai, 10 à 16 heures, café Braille. Mardi 7 juin, 10 à 16 heures, café Braille. Jeudi 16 juin, 10 à 16 heures, café Braille. Mardi 21 juin, visite du musée Félicien Rops, à confirmer. Libramont. Avenue de Bouillon, 16A, Libramont. Mardi 19 avril, 10 à 16 heures, Café Braille. Mardi 10 mai, 10 à 16 heures, Café Braille. Mardi 14 juin, 10 à 16 heures, Café Braille. Liège, rue des Guillemins, 63, 4000 Liège. Jeudi 14 avril, 13h30, 16h30, Club Dentelle. Jeudi 28 avril, 13h30, 16h30, Club Dentelle. Vendredi 29 avril, 10 à 16 heures, Café Braille. Vendredi 6 mai, 10 à 16 heures, animation, zoothérapie et méditation animale. Jeudi 12 mai, 10 à 16 heures, Club Dentelle. Vendredi 20 mai, 10 à 16 heures, Café Braille. Vendredi 3 juin, visite du musée de la vie wallonne, à confirmer. Jeudi 9 juin, 13h30, 16h30, Club Dentelle. Vendredi 17 juin, 10 à 16 heures, Café Braille. Jeudi 23 juin, 13h30 à 16h30, Club Dentelle. Nouveauté, Club de Go. L'équipe de la Ludothèque est heureuse de vous annoncer le lancement d'un Club de Go au sein de la Ligue Braille. Le Go est un jeu asiatique ancestral de plus de 4000 ans qui servait à la stimulation intellectuelle des dirigeants et généraux afin de développer des stratégies de guerre. Le jeu consiste à placer des pierres sur un plateau appelé Goban pour créer des territoires et capturer les pièces de son adversaire. Notre équipe sera à votre disposition pour l'explication des règles. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations. Attention, suite aux mesures sanitaires, le nombre de places est très limité. Ne tardez pas à vous inscrire. Inscription auprès de la bibliothèque, par téléphone 02 533 32 40, par mail bib@braille.be. Fin de ce numéro.